Bon après-midi à tous et à toutes. Toujours bon de revenir vous visiter. Surtout que ça n'arrive pas très souvent, moins souvent qu'avant, alors on l'apprécie davantage. Hein? Pour citer une parole hors contexte, c'est Mahomet qui disait à son fils, « Viens me voir moins souvent, et quand tu viendras, je serai plus content de te voir. » Est-ce que ça se dit dans une église chrétienne, oui? Nous saluons tous ceux et celles qui nous visitent, entre autres. Et nous avons le plaisir de revoir notre frère Emmanuel, Abraham avec nous. Abraham est un frère très cher, un frère de Québec qu'on apprécie énormément. En visite à Montréal en fin de semaine, ben c'est très, très apprécié que tu viennes nous voir ici même à l'église et aux autres de même, que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous, même notre frère Luca, hein, qu'on croyait avoir été enlevé, mais non, il est encore sur cette terre et le voilà parmi nous aujourd'hui. Écoutez, j'aimerais en profiter... Je relisais l'Épître aux Colossiens cette semaine, et dès qu'on arrive à la fin de l'Épître, Paul a toute une litanie de noms de ses collaborateurs. Et il y en a, on ne sait pas trop ce qu'il faisait, là, Justus, t'sais? Mais il est mentionné comme quelqu'un d'important. Chaque tâche qu'on fait pour l'avancement du règne de Dieu, chaque contribution qu'on fait pour son Église, c'est une tâche importante qui mérite d'être signalée. Je regardais... Danny qui faisait danser ses doigts sur le clavier tout à l'heure et qui le fait régulièrement chaque dimanche. Je sais qu'il espérait qu'on ait quelqu'un d'autre un jour pour au moins une semaine sur deux pouvoir adorer, mais il se plaint pas. Il fait le travail, pratique avant, c'est apprécié. Les rencontres du mercredi de même, les dames qui dirigent les chants, c'est une grande bénédiction. Les présidents de culte, l'école du dimanche, les maisons qui s'ouvrent pour recevoir les rencontres d'hommes, les rencontres de femmes. Et on pourrait continuer pratiquement. J'en oublie, hein? Dites-le-moi, je ne vais pas en oublier. Qui d'autre? Et toutes vous autres qui venez vous rassembler avec nous pour qu'on ait une bonne communion fraternelle, qui est un moyen de grâce. Et... même un Letéia qui vient de me faire un beau sourire derrière. Oui, tout est reçu dans la grâce de notre Dieu. On se voit un petit verre, dirait l'autre. Hein? De quoi allons-nous traiter aujourd'hui? Bon, on va traiter bien sûr d'un sujet qui nous vient de... Oui, la Bible, c'est déjà un bon départ, qui nous vient de l'Apocalypse. Nous en sommes au chapitre 20, comme vous le savez, les versets 11 à 15. Lors de ma dernière visite, nous avons parlé, entre autres choses, que nous étions, nous, chrétiens, dans une attitude d'attente. Être dans une attitude d'attente veut dire que on garde les yeux vers ce qui vient. Et l'attente, c'est pas facile, hein? Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de luttes, il y a des tendances au découragement. Les Juifs, en route vers la terre promise, se demandaient, est-ce qu'il y a une terre promise? À travers tout ce qu'ils traversaient, vous voyez. Il y a l'érosion du temps et on peut finir par perdre courage. Gloire à Dieu pour la belle doctrine de la persévérance des saints. Nous savons que c'est Dieu qui persévère avec nous et qui va nous rendre au port désiré. Permettez-moi une comparaison très, très simple. Sur ce sujet-là, vous êtes peut-être familier avec ce qu'on appelle souvent le test du marshmallow. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas dit le test de la guimauve, mais on l'a appelé le test du marshmallow. En fait, ça s'est fait, une recherche s'est faite dans les années 60 à 70, là, par un psychologue du nom de Walter Michel à Stanford University. En Californie, c'est un test d'une très, très grande simplicité. On voulait voir un peu le comportement des enfants et comment ça se répercutait lorsqu'ils avançaient en âge. Alors, on prenait des jeunes de 4 à 6 ans, on les mettait dans un cubicule devant une table et il y avait, le bord du cubicule, une caméra qui les surveillait. Et on mettait devant l'enfant un bonbon. Ça, c'est cruel, hein? Et on lui disait... tu peux le manger tout de suite, mais si tu attends que je revienne, tu en auras deux. Imaginez-vous le combat de l'enfant, 4 à 6 ans, il a le bonbon sous le nez. Alors, on rapporte que c'était très amusant de voir les enfants qui bouchaient les yeux, jouaient avec leurs doigts, chantaient des chansons, jouaient avec la table. Ils essayaient de se distraire. D'autres avalaient le bonbon, bien sûr. Mais ceux qui parvenaient à attendre, c'était extrêmement intéressant. Et on a noté que ceux qui avaient entendu, plus tard, ont eu de meilleurs résultats scolaires. Hein? Apprendre à différer la gratification. L'autocontrôle, on ne vient pas au monde avec ça. Ce sont des vertus qu'on développe. Hein? Et encore davantage, nous, comme chrétiens, nous attendons le deuxième bonbon, si vous me portez l'expression un peu banale. Alors, c'était mon illustration de ce jour. Il en faut toujours une. C'était celle-là. Ça nous rappelle quand même notre attente du Seigneur Jésus-Christ. Une attente qui nécessite toujours qu'on se motive. Non pas qu'on se distrait, mais qu'on se motive et qu'on se conditionne. Nous allons donc lire cet après-midi Apocalypse chapitre 20 et nous lirons les versets 11 à 15. Quelle version as-tu, Mathieu?
Osterwald.
Ah, Osterwald. Oui, oui, oui. Es-tu un Osterwaldien? Tu n'es pas pour le texte reçu. Non, non.
Celle qui était dans la bibliothèque.
Oh, c'est une bonne version, Osterwald aussi, bien sûr. Oui, parce qu'il a le texte reçu. Un peu comme la King James. Hein? Il y a des gens qui croient que Jésus avait le texte reçu. Hein? Alors, voilà. Donc, Apocalypse, chapitre 20, les versets 11 à 15. 20, voilà. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Merci Seigneur pour cette parole que nous allons par ta grâce sonder cet après-midi. Mais nous voici sans doute devant l'un des passages les plus solennels de toute la parole de Dieu. Ça vient de se terminer après coup. Vous n'avez pas une occasion de vous reprendre après coup. C'est le jugement dernier. C'est la parole la plus solennelle qu'on puisse trouver. S'il doit se passer quelque chose, il faut que ça se passe avant. Lorsqu'on arrive ici, comme le texte le dit, plus de place pour se cacher, plus de place pour les excuses. C'est le jugement dernier. Il n'y a plus de bataille ici. Il n'y a plus de persécution. Il n'y a plus de larmes non plus, mais uniquement Dieu, le trône et l'humanité tout entière. Notre confession de foi, la 1689, nous dit ceci, chapitre 32. Elle a fait une belle synthèse. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Et tout jugement a été rempli par le Père, a été remis par le Père. En ce jour, non seulement les anges déchus seront jugés, mais tous les êtres humains qui auront vécu sur la terre comparaîtront devant le tribunal de Christ pour rendre compte de leurs pensées, de leurs paroles, de leurs actes, et pour être rétribués selon ce qu'ils auront fait dans leur corps, soit en bien, soit en mal. Quand on lit cela, des petits frissons dans le dos, hein? Est-ce que ça veut dire que tout ce que nous avons fait, de bien et de mal, va paraître ce jour-là? On va en parler tout à l'heure. Le but de Dieu en fixant ce jour est de manifester la gloire de sa miséricorde par le salut des élus et celle de sa justice par la damnation éternelle des réprouvés qui sont pervers et désobéissants. Mon premier point est très simple, l'inévitabilité du jugement dernier, comme on le voit au verset 11. L'apôtre Jean, donc, par l'Esprit du Seigneur, nous présente ici la dernière vision du chapitre 20 de l'Apocalypse. Le but de cette péricope, encore une fois, c'est de nous mettre en face de la réalité incontournable du jugement dernier. Nous vivons dans une culture où il n'y a plus de jugement, où la loi n'a plus de dents. Hein, c'est un peu difficile pour les gens de croire qu'il y aura un jugement dernier. On dit, ben Dieu va, hein? Et on retrouve ce jugement-là à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Dans Traité 5, donc, il écrit, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » L'apôtre Paul lui-même avait fait cette mise en garde. Au chapitre 17 du livre des Actes, versets 30 et 31, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Comment? Selon sa justice à lui. Justice parfaite. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Dans la terminologie de Jésus, ce sera le jour de son retour. Hein? Matthieu 25, 31, 32, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » On y voit donc deux troupeaux. Un troupeau de brebis et un troupeau de boucs dans notre texte d'aujourd'hui. Et en même temps que, comme on le lit tout à l'heure, il y a aussi deux livres, deux troupeaux et deux livres. Dans le livre de vie figurent uniquement les noms de tous ceux qui ont reçu en Jésus-Christ, par sa grâce, la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre avenue, hein? Il n'y a pas d'autre porte. Elle peut sembler étroite, mais il n'y en a pas d'autre que celle de la foi en Christ Jésus. Le verset 11 commence donc par une description du trône du jugement. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Et de ce trône, clairement, il y a manifestation de transcendance, de majesté, d'autorité. » C'est un trône, un grand trône. Le mot grec, c'est « mégas », qui est donné en français « méga », c'est un mégatrône, voyez-vous? Et c'est le Seigneur qui est dessus, hein? Il règne dessus. C'est donc un trône qui domine. Vous savez ce que veut dire le mot « dominer »?« Dominus » en latin veut dire « Seigneur »,« Dominus vobiscum », »,« Que le Seigneur soit avec vous ». Alors, c'est un trône de domination, c'est le trône de notre Dieu. Qui plus est, c'est un trône blanc. Ben voilà. Un trône blanc qui dégage une pureté parfaite, qui dégage une sainteté et une justice tout à fait incorruptible. C'est le prophète Ésaïe qui nous rapporte les propos suivants des séraphins lorsqu'il eut sa vision du trône en Ésaïe, chapitre 6, verset 3. Que criait-il l'un à l'autre? Il criait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Toute la terre est remplie de sa gloire. Le Trisagion, trois fois saint, saint à l'infini. La sainteté a la plus grande puissance. Et on sait que le mot saint veut dire d'abord et avant tout séparation. Trois fois séparé. Ça nous dit que notre Dieu est très différent de sa création. C'est une grande thèse de Van Til, soit dit en passant, sur qui j'ai eu le privilège de travailler. La différence entre le Créateur et la créature. Notre Dieu, il est tout autre. Oui, il est immanent, il s'est impliqué dans sa création, mais c'est vraiment le Dieu tout autre. Le texte ne spécifie pas qui était assis sur ce trône. Je ne pense pas qu'on ait besoin de faire 3-4 doctorats en théologie pour savoir qui était assis dessus. On peut croire qu'il s'agit de Dieu le Père, comme nous l'avons vu auparavant au chapitre 4, verset 2. Par ailleurs, cette vision s'harmonise aussi avec celle de Daniel, au chapitre 7, verset 9, où nous lisons ce qui suit. « Et l'Ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige. » C'est le Père, ça. C'est Dieu le Père, ça. Hein? Par contre, la Bible nous enseigne aussi que Jésus jugera le monde avec le Père. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. » L'Évangile de Jean nous affirme que le Père a remis le jugement aux mains du Fils. Jean, chapitre 5, verset 22. Donc, même si le verset 11 semble pointer vers le Père, il est tout à fait clair que Jésus, le Fils de Dieu, se veut l'agent auquel tout jugement a été remis. Et c'est ce qui fait qu'il est assis à la droite de Dieu, comme l'affirme d'ailleurs Éphésiens et comme l'affirme l'Épître aux Hébreux. Le verset 11 ajoute un élément très important, à mon avis. Il nous dit « La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face. » Ça nous dit donc, dans un premier temps, que devant ce trône, il n'y a plus d'abri. Il n'y a plus de terre, il n'y a plus de ciel. Il n'y a plus de cachette. Il n'y a plus de masque. Il n'y a plus d'illusion. Il n'y a plus de prétention. Les puissants et les faibles, les croyants, tout comme les incrédules, les incroyants, tous sont égaux. On se rappellera d'ailleurs la plaidoirie du chapitre 6, verset 6 et 17, verset 16 et 17. Ils dirent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car il est grand, le jour de sa colère est venu, qui peut subsister? » Montagne, venez nous cacher. Là, il n'y a plus de montagne. La terre et le ciel ont évacué, ont levé les feux, si vous voyez l'expression. Ont disparu de la place, vous voyez? Plus personne n'est à couvert. Plus personne n'est caché. Il ne reste que Dieu et son incontournable jugement. Vous savez, ce jour-là, on parlait tout à l'heure dans la salle, trois frères, on parlait à quel point les humains sont bons pour se trouver des excuses. C'est à cause de, ben là, il est bien occupé, il y a ci, il y a ça. Hein? C'est vrai, hein? Personne ne pourra dire, ben là, Seigneur, je n'ai pas pu te suivre, j'étais malade. Ou encore, c'est la faute de mon école. On m'a enseigné des choses épouvantables à mon école, c'est pour ça que je t'ai pas suivi. C'est la faute de mes parents. C'est la faute de mon travail. C'est la faute de mes amis. C'est la faute de mon gouvernement. On n'arrête pas de chialer pour nos gouvernements. Hein, c'est facile de dire c'est la faute de notre gouvernement, etc., etc. Comme on l'entend souvent dans notre culture, de toujours remettre la faute sur l'autre. Tout est mis à nu. « C'est pas ma faute, Seigneur, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. » Si tu m'avais donné une autre femme, il n'y en avait pas beaucoup, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Et la femme te dit, « C'est le serpent. » C'est toujours la faute de l'autre. Non, au jour du jugement, aucune cachette, aucun masque, aucune illusion, aucune prétention. La vérité sera à nous. On est responsable de ce que nous... C'est évident que Ève a eu de quoi avoir dans la chute d'Adam. On n'est pas une pauvre petite. Non, non. Elle a eu de quoi avoir. C'était très sérieux. Mais ça n'enlève pas la responsabilité ultime d'Adam. Les causes secondes n'enlèvent pas les causes premières. Maintenant, la raison de cette disparition de la création n'est rien d'autre que le péché, comme on le lit tout du long dans l'Écriture sainte. Et on voit encore ici le ridicule, l'absurdité des arguments de ceux et celles qui s'appuient sur Mère Nature. Mère Nature. Elle y goûte ici, Mère Nature, voyez-vous. Non seulement que c'est la réception d'une méchante baffe, hein, mais elle est réduite à rien. Mère Nature, ce n'est que l'expression d'un humanisme pécheur et idolâtre. Et ça nous amène à notre deuxième point. Donc, l'inévitabilité du jugement dernier. Mon deuxième point, c'est inévitable, mais quelle en sera l'étendue? Ça va se répandre jusqu'où? Hein? Versets 12 et 13. « Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres-là. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Est-ce qu'on vient de tomber sur un jugement par les œuvres? Chacun sera jugé selon ses œuvres. On rit plus? Nous vivons dans un monde où le péché n'est pas à découvert. Et même s'il le devient, la tolérance sociale est telle qu'on n'y porte guère attention. Le crime n'est donc pas vraiment découragé, de sorte qu'il ne cesse sa progression. Quand tu es puni pas, tu sais, venir, tu n'apprends pas, hein? Mais il n'en sera pas ainsi au grand jour du jugement dernier, où ces livres ne feront fi d'aucun péché. Le texte s'accorde bien avec le discours de Jésus. Jean chapitre 5, verset 28-29. « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Et voilà, on est en plein salut par les œuvres. Il n'y a pas de contestation jusqu'à maintenant, ça va bien. Le texte est d'une clarté cristalline. Il ne manquera personne au grand jour du jugement. Il n'y aura aucune distinction de rang, de classe et d'âge. Il s'agira du plus grand rassemblement d'humains de toute l'histoire, incluant toutes les époques, depuis la nuit des temps. Personne ne sera absent ce jour-là. Personne n'échappera au jour du jugement. Le taux de présence sera de 100%. Nos noms sortiront présents. Même si on aura envie de dire, bien là, pas sûr. Ce n'est pas comme aujourd'hui, lorsque quelqu'un décide de ne pas aller à l'église un dimanche. L'absence au jour du jugement ne sera pas optionnelle. Personne ne pourra dire, « Ben moi, je prends congé de cela aujourd'hui. » Il nous est rapporté que des livres furent ouverts. Ah, ben voilà. Il est ici question d'une compilation. Toute une compilation. Une compilation de nos actions, de nos paroles et de nos pensées. Rien n'y échappe. Chacun sera jugé selon les œuvres qu'il aura accomplies tout au long de sa vie. Et ces œuvres-là témoignent de notre attitude envers Jésus, à savoir une foi véritable en Christ comme Sauveur et Seigneur, ou le contraire, voyez-vous? À quoi serviront les œuvres? Ce n'est pas que le Seigneur va prendre chaque œuvre du croyant, « Ah, ça c'est bon, ça c'est pas bon », non. Le croyant va voir ses œuvres faites par la foi confirmer effectivement que le Christ est mort pour lui. L'incrédule, pour le degré de son jugement, va voir tous ses péchés, toutes ses paroles, toutes ses actions, tous ses actes pris en compte. Il est important ici de nous laisser rappeler à titre de croyant que la description biblique du pardon implique que Dieu oublie nos péchés. On trouve ça tout du long. Hein? Il est lent dans la mer de l'oubli, puis comme on disait à l'époque, il ne retourne pas pécher. Il est laisse dans le fond. On n'a donc pas à craindre que toutes nos paroles, nos actions et nos pensées seront alors mises au grand jour. Est-ce que ça vous fait du bien? Moi, ça m'en a fait sérieusement. Peut-être que je suis pire que vous autres, là, mais ça m'a soulagé grandement. Mais je regarde le visage vert de Matthieu, je pense qu'il vient de commencer à réagir positivement. Si on commençait à révéler tout cela, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pensé, ne serait-ce que depuis cette chair, on serait honteux à en mourir. Imaginez-vous le matin, le président du culte, Matthieu arrive, OK, on va commencer par les péchés de ceux qu'on a assis devant, hein, il commence à nous descendre cela. Il y aurait peut-être plusieurs qui iraient à la salle de bain là, pendant qu'il... Hébreux 8, 12 et Jérémie 31, 34, « Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Alléluia. Ésaïe 38, 17, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, et on pourrait encore faire intervenir une pléthore d'autres versets dans la même direction. Un incident avec lequel vous êtes vraisemblablement familier. Il y a une tache noire, vous savez, sur le mur d'un château en Allemagne qui rend un témoignage éloquent de cette vérité-là. Vous me voyez venir vraisemblablement. C'est le château de Wartburg. C'est l'endroit où Martin Luther a pris refuge après son courageux témoignage là, à la diète de Worms. Luther est extrêmement productif durant cette période-là, mais il a été considérablement tourmenté par l'ennemi. Vous arrive-t-il d'être tourmenté par l'ennemi? Est-ce qu'il tourmente bien l'ennemi? Est-ce que c'est un tourmenteur, l'ennemi? C'est un accusateur. C'est un traître. C'est un séducteur. Il écrit à son ami Philippe Melanchthon, Luther, le 24 mai 1521, à 4h20, le 24 mai 1521, à propos d'une dépression spirituelle qu'il avait éprouvée et au cours de laquelle... Il rêva que Satan apparaissait avec un long rouleau sur lequel ses nombreux péchés étaient soigneusement inscrits, chacun étant là un à un. Et pendant tout ce temps, Satan se moquait de son désir pathétique de servir Dieu, lui assurant qu'après tout, il finirait en enfer. Luther se tordait dans l'agonie spirituelle. Si vous voulez voir les gens se tourner, se tordre dans leur agonie spirituelle, lancez-leur leur péché au visage. Condamnez-les. Ça veut dire qu'il n'y a pas une place pour se reprendre lorsqu'il y a des correctifs à apporter. Mais attention aux invectives, attention. Attention au péché qu'on lance aux autres. Ce n'est pas des encouragements. Ça nous amène à l'agonie. On est là, bien aimé, pour s'encourager. Il y en a un qui charge de nous accuser sans cesse. Je vais vous faire une confession. Ne me dites pas mes péchés, je les connais. Je les sais. Et on travaille dessus, comme dirait l'autre. Donc, Luther se tordait dans l'agonie spirituelle jusqu'à ce que, finalement, il se lève d'un bond et s'écrie « Tout cela est vrai, Satan! » Et bien d'autres péchés encore que j'ai commis dans ma vie et qui ne sont connus que de Dieu. Mais écris ceci au bas de ta liste. Oh, alléluia! Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. était gars d'action, Luther. Il a pris un encrier, vous connaissez l'histoire, et il l'a lancé à Satan, n'est-ce pas? C'est la trace, dit-on, qu'on retrouve sur le mur, là, et Satan s'est enfui. Si on prenait l'habitude de faire ce que Luther a fait, ça ferait longtemps qu'on serait à court d'encriers, hein? Parce qu'on en aurait lancé plusieurs. Enfin. Alors que Jésus, donc, décrit le jugement final en Matthieu, chapitre 25, versets 32 à 34, les nations sont assemblées devant son trône, mais ne sont pas dans le même groupe pour recevoir le même traitement. Hein, pas une bunch de brebis mêlées avec des boucs. Il y a les brebis et il y a les boucs, voyez. Il nous est rapporté, en effet, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Hein? Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Voyez-vous, nos péchés sont pardonnés, de sorte que même notre culpabilité et notre honte sont effacées. Sinon, on aurait le dos courbé, hein, constamment. C'est dire que le Seigneur ne reviendra pas au jour du jugement dernier avec toute la compilation de mes péchés pour dire « Shame on you !» Oui, c'est pardonné, c'est oublié, c'est effacé à jamais. Au contraire, les œuvres qui seront prises en compte sont celles qui révèlent notre foi, celles qui révèlent notre conduite, celles qui révèlent le Dieu que nous adorons. Ce que nous croyons détermine ce que nous faisons et ce que nous faisons détermine ce que nous croyons. En conséquence, nos œuvres se veulent des indicatrices infaillibles de notre foi en Jésus-Christ ou de notre rejet de ce dernier. On n'est pas sauvé par les œuvres, attention à la religion des œuvres, mais par la repentance de nos péchés et par la foi en Christ Jésus. Notre assurance vient du fait que nous sommes en Christ Jésus, il n'y a pas du fait que j'ai été fin aujourd'hui. Hein? Nous sommes sauvés par lui et par ses œuvres, non par les nôtres. Mais quand nous sommes sauvés, hein, nous sommes aussi transformés. Right? Le salut, c'est forcément l'expression, c'est un package. Hein? Ça n'arrête pas en plein milieu de... On est élu, on est ensuite... On a la proclamation du salut, on vient au Christ, on est justifié, progressivement sanctifié, et éventuellement, nous serons glorifiés. Mais le Seigneur ne s'arrêtera pas uniquement après la justification. La sanctification, impérativement, doit suivre. Elle fait partie du tout. Et ce n'est pas nous qui nous sanctifions, c'est le Seigneur qui nous sanctifie par nos efforts et par son Esprit Saint, mais c'est lui qui fait l'œuvre. Hein? Donc, quand nous sommes sauvés, nous sommes aussi transformés, et notre vie de transformation devient la manifestation d'une véritable foi qui nous habite. Ça nous rappelle Jacques et Paul. Hein? Jacques, il dit, « Ben moi, je vais te montrer que c'est par mes œuvres. Hein? » C'est pas ça. Il ne veut pas dire qu'il est sauvé par ses œuvres. Il veut dire que ses œuvres montrent la réalité de sa foi. Et Paul est extrêmement clair là-dessus. On n'est pas sauvé par la sanctification, on est sauvé par la justification. Exclusivement par notre foi complète et entière dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit simplement en Luc, chapitre 6, versets 44 à 45, « Chaque arbre se reconnaît à son fruit. » C'est pourquoi partout et toujours, dans l'Écriture sainte, le jugement est selon les œuvres. Oui, qui témoigne de ma foi ou qui témoigne de l'absence de ma foi. et non selon une simple profession de foi, voyons. Ah oui, j'ai accepté Jésus. Tu sais, on l'entend souvent. Ah, je crois à ça. Hein, on a entendu ça souvent également. En d'autres mots, on peut professer la foi, mais non la posséder. On peut professer une superbe de doctrine, mais vivre selon la chair. Et le texte ajoute magnifiquement qu'un autre livre fut ouvert. Ah. C'est celui, c'est la seule bibliothèque qu'on voudra avoir, c'est ce livre-là. Un autre livre fut ouvert, il est appelé le livre de Lévi. C'est le livre de l'agneau. Et qu'est-ce qu'on y trouve? On n'y trouve pas ce qu'on a fait. On y retrouve ce que le Christ a fait pour nous, avec nos noms. Et ça nous ramène bien sûr à la vision de Daniel, chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et c'est encore affirmé en Apocalypse 21-27 que nous verrons plus tard où nous lisons « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Certitude du jugement. Étendue du jugement. Dernier point, la finalité du jugement. Dernier, versets 14 et 15. Perdez pas la recette, c'est de la bonne eau. Donc, versets 14 et 15. « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. La vision de Jean du jugement final se conclut donc par la victoire ultime de notre Dieu, un triomphe évident sur l'enfer et la mort elle-même. Il n'y aura plus de mort. Je ne sais pas où vous en êtes, mais je trouve qu'à vieillir, à parler avec Diane il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas une journée où on n'entend pas dire « Ah, quelqu'un a un cancer, hein, il ne lui reste pas longtemps à vivre. Ah, tu as entendu parler que l'autre est mort. » On entend juste là. Et la mort, c'est un ennemi. La mort, c'est triste, vous savez. La mort, ça sépare des familles, ça sépare des couples, ça fait perdre des amis, ça fait perdre des entourages. C'est cruel, la mort des gens qu'on aime. Qu'on ne verra plus. On est content pour eux s'ils meurent sauvés, mais nous, on reste derrière. C'est cruel, la mort. Il n'y aura plus de mort. Donc, sauf à l'exception de la seconde mort, cette éternité de tourment pour tous ceux et celles dont le nom ne figure pas dans le livre de la vie. Rappelons-nous les trois aspects de la mort. Premièrement, il y a la mort spirituelle. Le Seigneur avait mis très, très clairement dans le cœur d'Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Effectivement, le jour où ils en ont mangé, ils sont morts spirituellement. Dieu les a ramenés à lui, bien sûr, mais le jour où ils en ont mangé, ils sont morts spirituellement, c'est la séparation de l'âme d'avec Dieu, en raison du péché. Et cela entraîne la mort physique, qui est la séparation de l'âme et du corps. On risque à peu près tous d'y passer, hein? Et la seconde mort, c'est elle qu'il faut éviter. C'est la séparation éternelle de l'âme et du corps d'avec Dieu. C'est ce qui est fait référence ici avec l'expression « la seconde mort ». La mort, donc, c'est la malédiction engendrée par le péché dans la parfaite création de Dieu. Donc, pour que le Christ vienne établir les nouveaux cieux, et la nouvelle terre, il doit impérativement mettre un terme à cette malédiction-là. Et c'est ce qu'il va faire avec la mort et avec le séjour des morts. Hein? Sous la plume inspirée de l'apôtre Paul, nous lisons ceci, « Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. » 1 Corinthiens 15, 26. C'est la victoire finale, c'est la victoire inaltérable du Dieu Trine. Et c'est un jour glorieux. C'est un jour de joie pour les saints, pour les saints anges aussi, et pour les rachetés de Dieu, qui ne manqueront pas de déclarer, selon Apocalypse 11, 15, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il règnera au siècle des siècles. » Ce verset nous ramène à l'expression « l'étang de feu ». Bien sûr que c'est une image. Je présume qu'il n'y a personne qui croit ici que l'enfer, c'est un gros feu qui ne s'éteint pas. Hein, c'est une image. Mais une image a ses limites. Sauf que la réalité est infiniment pire que l'image, vous voyez? L'étang de feu, c'est une réalité. On en a parlé lors de ma dernière visite, on s'en souviendra. La bête et le faux prophète y sont déjà maintenant, et la mort et le séjour des morts vont les joindre. Verset 15. « Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Il n'y en a pas quelques-uns qui ont été pris au hasard. Quiconque n'était pas dans le livre de vie, sans aucune exception, fut jeté dans l'étang de feu. Et on avait déjà lu en Apocalypse 13, 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, etc., ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de la vie de l'agneau, qui ont été immolés dès la fondation du monde. » Alors, tous ces gens-là seront jetés dans l'étang de feu, selon ce qui figure dans les livres ouverts, où chacun est jugé selon ses œuvres. Il y aura cependant des variantes de ces vérités dans le jugement, parce que Dieu est un Dieu juste. Hein? Il y aura des degrés de châtiment pour les perdus. Les paroles du Seigneur sont un peu plus claires à cet effet-là, et on les retrouve dans Matthieu chapitre 11, les versets 21 à 24. « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. » C'est intéressant comme affirmation. Pourquoi il ne les a pas fait? Dieu ne doit sa révélation à personne, vous voyez, au départ. Hein? Enfin, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non! Tu seras baissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Alors, quand les perdus font de bonnes choses, on est content pour eux, vous voyez. Ils en enlèvent un peu sur le lot de leur souffrance. Ça va être épouvantable, là. Mais on comprend qu'il y aura des degrés de châtiment. Il y aura des degrés de récompense aussi, mais il y aura des degrés de châtiment en enfer. Imaginons un peu l'horrible dimension. L'indescriptible culpabilité de ceux qui rejettent le Christ, malgré tous les avertissements de cette vision-là. Combien ce jugement, au-delà de toute mesure, viendra frapper ceux qui rejettent l'Évangile. Bien-aimés, frères et sœurs, nous nous réclamons d'être sauvés. Mais de quoi sommes-nous sauvés? On va dire un peu banalement, un peu bêtement, sauver de l'enfer, sauver de la perdition. Il faut vraiment réaliser ce qu'est l'enfer. C'est d'une horreur qui dépasse tout vocabulaire. On ne parle plus beaucoup de l'enfer aujourd'hui, on n'entend plus beaucoup de prédications sur ce sujet, pourtant si fondamental, dont la parole parle avec abondance. C'est pourtant cette vision, c'est la perception de cette réalité qui va nous amener à une reconnaissance infiniment plus grande envers notre Dieu. Plus on réalise de quoi on a échappé, plus notre reconnaissance est grande envers notre Sauveur. Oui. Plus le danger se veut évident et inévitable, plus le secours est apprécié. On ne parle pas ici d'une petite épreuve secondaire et temporaire, mais bien de l'éternité dans les temps de feu. On a besoin d'être confronté à cette réalité-là. Il y a un missionnaire que j'apprécie particulièrement, et pour une raison très personnelle, entre autres choses, c'est Adoniram Johnson. Adoniram Johnson était fils de pasteur. Ça m'a beaucoup rappelé mon fils, ça m'a beaucoup encouragé. Adoniram Johnson était un garçon bien. À l'âge de 16 ans, il décide d'aller étudier. Pardon. Il décide d'aller étudier, c'est un jeune chrétien qui décide d'aller étudier à Providence College, qui est aujourd'hui Brown University, dans le Rhode Island. Il réussit très bien dans ses études. Mais là, il n'est plus dans la maison. Il n'est plus coucouné dans la maison par papa pasteur et par la maman, je ne sais pas trop quoi. Et il se fait des amis. Il se fait un ami, entre autres, qui s'appelle Jacob Eames. Jacob Eames a été grandement influencé par les Lumières qui venaient d'Europe. Alors, Jacob Eames était un déiste convaincu et non pas un théiste. Vous connaissez la nuance entre les deux? Un déiste croit que Dieu a créé le tout et que ça s'arrange par ses propres lois. Un théiste croit que Dieu intervient. Alors, c'est un incroyant, en quelque sorte. Il était un déiste convaincu, très articulé. Il devient ami, finalement, avec Adoniram Johnson et il l'amène à ses convictions. Et Adoniram Johnson achète le paquet. Il devient lui-même cela. Il réussit très bien ses études. À l'âge de 20 ans, il retourne chez lui. Et au grand désarroi de ses parents, il leur annonce la nouvelle « Je ne suis plus chrétien ». Alors, c'est la catastrophe totale dans le foyer, on peut comprendre. Il décide donc d'aller mener sa propre vie, de donner libre cours à ses passions à New York, ou ailleurs, à New York. Il l'a fait pendant un certain temps, il se lance de cela. Et il décide de revenir à la maison. Sur son chemin du retour, fatigué, il décide d'arrêter dans une auberge pour se reposer. Alors il entre au comptoir et il dit à l'aubergiste, « Est-ce que vous auriez une chambre pour moi? » Pardon. L'aubergiste lui dit, « Oui, j'en ai une, mais je ne vais pas vous la louer parce que dans la chambre d'à côté, il y a un homme extrêmement malade. » Qui se plaint, qui n'arrête pas de gémir, fait beaucoup de bruit, vous ne trouverez pas le sommeil. Adoniram Johnson dit, je suis tellement fatigué que je la loue quand même. Il va dans sa chambre, il s'étend et il entend les gémissements de la personne à côté, les cris de douleur et les tourments, etc. Et il se dit à lui-même, je me demande ce que Jacob Eames penserait de cela. Et finalement, il chasse ces pensées-là. Au bout de ses ressources, il finit par s'endormir. Au matin, il se lève, prend ses valises et va pour quitter. Règle la facture, on dit souvent. Il demande à l'aubergiste, en passant, le monsieur, dans la chambre d'à côté, je ne l'ai pas entendu gémir ce matin. Monsieur, il est mort. On savait qu'il passait pas la nuit, il était extrêmement malade. C'est triste. Et c'est ce que vous connaissiez. L'aubergiste, bien sûr, qu'on connaissait, c'est un très gentil jeune homme. Son nom, c'était Jacob Eames. Ça a frappé Adoniram Johnson comme une tonne de briques. Mort perdu. Ce jour-là, Adoniram Johnson a vu l'enfer ouvrir grande sa gueule et avaler un de ses meilleurs amis. Ça l'a ramené au Seigneur Jésus-Christ. Il est devenu missionnaire en Birmanie pour 40 ans. Missionnaire baptiste en Birmanie pour 40 ans. On a besoin de voir à quoi on échappe pour réaliser le privilège du salut, le privilège d'être en Christ Jésus. Bien-aimé. Gardons à l'esprit cette réalité de l'enfer. duquel nous sommes sauvés. Et ça va donner une toute autre perspective à nos petites épreuves niaiseuses du quotidien. Tout en enfantant une reconnaissance unique envers notre Dieu. À qui soit la gloire et l'honneur en Christ Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Fort heureusement pour ceux qui croient en toi, le verset ne s'arrête pas là. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. La mort, c'est beaucoup plus que d'arrêter de respirer. La mort, c'est une séparation d'avec notre Dieu qui ne nous avait pas créés mortels. La mort, c'est l'empilade de nos péchés, l'esclavage de nos passions. La vie en Christ Jésus, c'est une justification, être déclaré juste et être progressivement délivré de toutes ces passions infâmes qui nous habitent, avec l'assurance d'une éternité dans la présence de notre Dieu. Rappelle-nous, Seigneur, toujours ces vérités importantes dans notre quotidien lorsqu'on se concentre beaucoup trop sur les petites choses de ce monde. On confère tellement d'importance aux circonstances de nos vies en oubliant que toutes ces circonstances-là sont des messagères de toi. Nous viennent de toi, nous rappellent que nous sommes tiens, que tu prends soin de nous et nous révèlent en quelque part des choses sur ce monde et des choses sur nous. Sinon, tu n'es pas souverain. Tu es le Dieu en qui toute existence puise sa source. Il n'y a aucune circonstance qui se crée d'elle-même. Il n'y a aucune circonstance qui est générée par les hommes. Tu es le Dieu souverain et tout-puissant qui gère nos vies. Et merci d'avoir bien voulu, ô Dieu, dans ton immense transcendance, toi, le Dieu trois fois saint, venir t'incarner, venir dans la chair, en Christ Jésus, venir vivre ce que nous sommes, venir faire en sorte que dans l'homme, Dieu, nous puissions te rencontrer, toi, Dieu, et nous, l'homme. Et ainsi recevoir cette consolation éternelle. Cette consolation éternelle est sûre, qui nous vient de ta parole sûre et certaine. À quelle autre parole pourrions-nous nous référer, ô Dieu saint? Tout est silencieux lorsque tu te tais. Seule ta parole rejaillit dans nos cœurs. En Jésus. Amen.